Bonjour tout le monde. Joyeux Noël à tout le monde. C'est une bonne manière de commencer la saison de Noël avec un thé de Noël entre dames, entre sœurs même, qui ont le même amour pour le même sauveur. Et en fait, on va parler un petit peu de Noël d'une manière un peu spéciale. Alors, les fameuses fêtes de Noël. Les fêtes de Noël restent l'événement évidemment majeur de l'année et les Français, comme tous les autres, mais les Français surtout, continuent d'y consacrer une part importante de leur budget annuel. Est-ce que vous savez combien d'euros les foyers français ont dépensé l'année dernière ? 1000 euros. Ça, c'est les Parisiens. 500, c'est plus du côté du Midi. Alors, entre les deux, mon cœur balance. Voilà, wouhou! 750, c'était les dépenses l'année dernière pour les fêtes de Noël par foyer. Voilà. La nourriture, évidemment, y tient une place très importante, privilégiée, entre le réveillon de Noël qui est le 24 décembre au soir, comme vous le savez, et le 25 décembre pour le repas de midi. Alors, je vais vous donner quelques exemples de ce qu'on mange en Europe. Alors, si vous n'êtes pas d'Europe, si vous êtes des États-Unis ou d'ailleurs, je suis désolée, je ne vous ai pas pris en compte. J'aurais voulu, mais en fait, pour pas vous ennuyer trop longtemps, j'ai pris que quelques pays d'Europe. Alors, en France, la tradition veut qu'on serve des plats traditionnels, délicats, comme le foie gras, les huîtres, le saumon fumé, les boudins blancs, j'irai pas vers les escargots et les cuisses de grenouille. Le repas traditionnel du 25 décembre étant bien évidemment encore et encore la dinde rôtie au farci au marron. Très bien. Et aussi évidemment l'incontournable dessert de Noël qui est la bûche de Noël. Oui, bravo. Donc partout dans le monde, beaucoup, beaucoup célèbrent cette fête. Une fête magnifique, surtout en Europe et aux États-Unis. Et voici quelques exemples de plats typiques traditionnels de certains pays que j'ai pris dans une abondance de plats traditionnels. En Allemagne, on mange... Alors si je me trompe, vous viendrez me voir après en me disant « un ». Ok. On mange l'oie rôtie ou farcie et le gâteau typique. Alors évidemment, tous ces pays mangent énormément de choses. J'ai sorti que quelques plats. Hein. Et le gâteau typique qui est le Christstollen, un gâteau aux fruits secs et aux noix. Délicieux. En Espagne, est-ce qu'il y a quelqu'un d'Espagne ici ? Espagne ? Ok. L'agneau rôti ou la dinde, les fruits de mer, le nougat, le fameux turrón, et plein de spécialités du terroir qu'ils mettent dans des paniers et qu'ils s'offrent les uns aux autres. C'est une grande tradition. Allez en Espagne à Noël, vous risquez d'avoir un sacré panier. Ok, en Finlande, un beau gros jambon, de la morue au lait, des harengs et comme dessert, des tartelettes en forme d'étoiles de mer. En Italie, Italie, les Italiennes ici, ok. En Italie, le fameux panettone ou pandoro, une belle brioche au raisin sec et ou autres fruits. En Pologne, 12 plats sans viande pour le réveillon. Le numéro 12 est très important. Associant les produits des champs, des forêts, des eaux, je vous passe les détails, la dinde farcie, à Noël, le jour de Noël, des pierogies dont je me suis régalée tellement souvent quand j'étais petite parce que ma grand-mère polonaise m'a élevée. Ces pierogies, c'est des gros raviolis. Voilà. Et le fameux compote, qui n'a rien à voir avec notre compote, qui est un jus de fruits avec 12 fruits macérés. Au Portugal, oui. Le bacalao cozido, un plat de morue, pommes de terre, choux arrosés d'un filet d'huile d'olive et surtout, plein de desserts. Si vous voulez des desserts, vous allez au Portugal. 13 desserts, c'est la tradition. Au Royaume-Uni, finalement, la dinde, ou l'oie, ou le bœuf rôti, tartelette aux fruits et le fameux Christmas pudding. Et si je me trompe, il va falloir que tu me donnes la bonne... Ok, donc comme nous le voyons de cette liste, qui ne reflète en fait que quelques traditions, nous aimons tous manger. Nous avons à notre disposition une abondance de nourriture des plus variées. La Bible nous dit que Dieu a remis les soins de cette planète entre les mains des êtres humains et qu'il nous a donné toutes ces choses pour que nous en jouissions. Ces milliers d'espèces, de plantes délicieuses, de fruits, de légumes, de noix qui sont si salutaires pour notre santé, sans parler du bétail, les vaches qui fournissent la viande, le cuir, le lait, le fromage, le beurre, les yaourts, les glaces, les poules qui nous régalent avec leur viande et qui nous donnent des œufs qui sont bourrés de protéines, les moutons avec leur laine et leur viande succulente. En parlant de nombres impressionnants d'espèces, on peut regarder aussi aux arbres. Il y a des milliers d'espèces d'arbres différents qui, eux, pourvoient à notre besoin de bois pour la construction de nos maisons. Et non seulement ça, mais qui absorbent notre oxygène, notre gaz carbonique, pardon, et qui relâchent l'oxygène qui est indispensable pour notre vie. Ok. Savez-vous combien d'espèces d'animaux, de plantes, de champignons ou toute autre forme d'être vivant existe sur notre planète? Est-ce que vous avez une idée? Peut-être pas autant, mais... Alors, je vais vous le donner parce qu'on n'a pas trop de temps. 8,7 millions d'espèces qui sont estimées sur notre planète. Et la chose incroyable, c'est que tous les ans, on découvre 6200 nouvelles espèces en moyenne. Ça, c'est pour vous montrer. J'essaie de vous montrer, de vous peindre un tableau assez impressionnant. Ok. J'espère que ça marche. Ok. Le plaisir de manger, mais aussi de profiter de la nature autour de nous, qui nous entoure, de profiter de cette nature de mille et une manières. De la mer, elle est belle à Nice, hein, surtout après les pluies, hein, de l'océan, des rivières, des montagnes, des plantes, les arbres, les fleurs, les animaux, les saisons, nos vacances, nos sports préférés, nous donnerait-il autant de joie s'il n'y avait pas cette magnifique nature autour de nous? Réfléchissez à ça. Comme Dieu est bon de nous donner toutes ces choses abondamment. Qui est donc ce Dieu dont la création révèle le génie, la générosité et la majesté? Voici quelques versets d'un psaume qui parlent de cela. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes doigts, en hébreu c'est de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Psaume 8. La Bible nous montre que Dieu est un roi puissant, souverain au-dessus de sa création. Mais il n'est pas un Dieu distant et indifférent. Au contraire, il est très impliqué dans sa création qui en fait dépend totalement de lui pour son existence et pour son fonctionnement. La Bible nous dit, en fait la Bible c'est l'histoire de ce Dieu qui créa un univers parfait dans lequel il plaça l'apogée de sa création, l'homme et la femme. Des êtres moraux comme lui, avec qui il avait une relation proche, et ces êtres humains avaient aussi cette relation proche avec lui et vivaient totalement libres, une vie complètement épanouie. Dieu avait donné à l'homme un don très précieux, le libre arbitre, le libre choix. Libre de choisir de dépendre de lui, de l'aimer, Et le problème, c'est que Adam et Ève, à un moment donné, on ne sait pas quand exactement, mais un jour, ils ont choisi de ne plus dépendre de Dieu, de se détourner de lui, malgré l'avertissement solennel que Dieu leur avait donné, que le jour où ils feraient ce choix, les choses deviendraient terribles, absolument terribles. Vraiment, les choses iraient vraiment mal. Et depuis ce jour-là, chacun d'entre nous vit dans un monde qui a terriblement changé à cause de ce choix. La loi du plus fort, les maladies, les souffrances, la mort, et pire que tout, la séparation, maintenant et pour toujours, d'avec ce Dieu. Notre nature en tant qu'être humain a changé radicalement. Notre cœur a été saisi par le mal, la rébellion que la Bible appelle le péché. Et notre nature désormais est très opposée à celle de Dieu. En effet, la Bible nous dit que Dieu seul est un Dieu qui est saint. Il est le standard de tout ce qui est juste, de tout ce qui est droit, de tout ce qui est pur. En fait, par nature, il est parfaitement pur. Et nous, nous sommes profondément détournés de lui et de ses voies. Notre cœur est désespérément souillé, car c'est du cœur des hommes et des femmes que viennent les mauvaises pensées qui le poussent à vivre dans l'immoralité, à voler, à tuer, commettre l'adultère, vouloir ce qui est aux autres, agir méchamment, tromper, vivre dans le désordre moral, être jaloux, dire du mal des autres, être orgueilleux et fou. Aussi, en tant que transgresseurs de la loi divine, nous ne pouvons pas nous tenir dans la présence de ce roi puissant, de ce lion dévorant. Dans les années 605 à 562, elle ne s'est pas comptée, avant Jésus-Christ, rappelez-vous, avant Jésus-Christ, c'est à l'envers qu'on compte, il y eut un grand empereur qui régna dans l'Empire babylonien. Il était considéré l'homme le plus puissant de toute l'Antiquité. Nous avons certainement entendu parler de lui, nous connaissons son nom par nos cours d'histoire à l'école, on l'appelle à l'école Nabucodonosor. Dans la Bible, il s'appelle Nebuchadnezzar. Son orgueil était immense. Il demandait à être adoré comme Dieu. Et nous avons le témoignage, son témoignage, en fait, personnel, dans le livre de Daniel, au chapitre 4, un livre qui est dans la Bible. Et le témoignage véridique et surprenant d'un roi qui a finalement saisi qui était le vrai Dieu. Voici son témoignage, raccourci. Nebuchadnezzar, c'est ses paroles à ce roi, roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ses signes sont grands, que ses prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Alors, Nebuchadnezzar raconte son rêve, la vision d'un arbre grand et fort qui fut abattu soudainement et lié de chaînes pendant 7 ans et livré à une vie complètement sauvage. En fait, il continue. Ce rêve donc l'a effrayé. Daniel lui donne l'explication de la part de Dieu et voici la suite du témoignage de Nebuchadnezzar. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar au bout de 12 mois, donc 12 mois après son rêve. Comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit « N'est-ce pas ici Babylone la grande ?» que j'ai bâti comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Et 7 temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Au même instant, la parole s'accomplit sur Nabuchodonosor. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux poussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nabuchodonosor, imaginez, c'est l'empereur le plus puissant probablement de toute l'histoire humaine. Écoutez ces paroles. Après le temps marqué, moi, Nabuchodonosor, je levai les yeux au ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et les habitants de la terre, et il n'y a personne qui ne résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu ?» En ce temps, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence, ma splendeur me furent rendues, mes conseillers et mes grands me redemandèrent, je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nabuchodonosor, je loue, j'exalte, je glorifie le roi des cieux dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Dieu n'est pas seulement incroyablement puissant, mais il est aussi le juge devant lequel nous devrons tous rendre compte de la vie qu'il nous a donnée. Il est ce lion puissant de sainteté devant personne ne peut se tenir, devant qui personne ne peut se tenir. Et notre seul espoir serait de prendre une nature comme celle de Dieu. Nous devons naître de nouveau. Mais comment ? Dieu n'est pas seulement comparable à un lion majestueux, mais il est aussi plein de compassion, ne voulant qu'aucun ne périsse. Comme il n'est pas un juge corrompu, il ne peut pas fermer les yeux sur nos crimes, sur nos transgressions. Alors, dans son immense miséricorde, depuis le tout début, il promet un sauveur qui paierait le prix fort pour nous ramener à lui. Parce que le plus grand besoin de l'humanité, en fait, ce n'est pas une meilleure information, une meilleure éducation, une meilleure technologie, ce n'est pas non plus une meilleure économie ou plus de divertissement, mais notre plus grand besoin en tant qu'être humain, c'est le besoin de pardon. C'est pourquoi Dieu nous a envoyé un sauveur plein de bonté qui nous offre une deuxième chance. Le prophète Ésaïe le dépeint ainsi. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de la part de l'Éternel. Et chose inouïe, absolument incroyable, s'il y a une seule chose que vous entendez aujourd'hui, chose inouïe, incroyable, c'est que le lion s'est fait agneau. Le Dieu souverain a pris une forme humaine. Il est devenu l'un d'entre nous. Il n'est pas venu avec éclat dans un palais somptueux, mais comme un nouveau-né humblement, au sein d'une famille pauvre qui n'a même pas pu lui offrir à sa naissance autre chose qu'une étable froide et malodorante. Le lion, le roi des rois, devenait un petit agneau innocent. Son nom, c'est Yeshua, en français Jésus. Son nom signifie « Dieu sauve ». Il a vécu en faisant du bien partout où il allait, redonnant un espoir fou, guérissant les malades, chassant les démons, ressuscitant des morts, parlant du royaume de Dieu, invitant tout le monde à revenir entièrement au vrai Dieu. Il a vécu, en fait, la vie humaine que nous aurions dû vivre sans péché. Et ceci est de la plus grande importance, parce que la seule manière pour que nous puissions nous tenir dans la présence de Dieu, de ce Dieu qui est saint, sans avoir à encourir son jugement, c'est si une personne, un être humain, sans péché, s'offrait pour prendre notre punition. Alors justice serait complètement satisfaite, nous pourrions être complètement pardonnés, et c'est exactement ce que Jésus a fait. En mourant sur la croix, il prenait notre sentence de mort. 3 jours plus tard, il revenait à la vie. Et à tous ceux qui placent leur confiance en lui et le reçoivent comme leur sauveur et leur roi, il donne une nouvelle naissance, la vie éternelle, une nouvelle nature qui permet à cette personne de se tenir enfin dans la présence de Dieu, maintenant et pour toute l'éternité. Nous ne pouvons pas mériter le ciel. C'est le cadeau de Dieu pour tous ceux qui viennent à Jésus humblement avec un cœur repentant. À la naissance de Jésus, un ange l'annonça aux bergers qui étaient dans les collines de Bethléem. L'ange leur dit « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre, bienveillance envers les hommes. » Et chaque Noël, les gens du monde entier célèbrent cet incroyable événement. La première venue de ce Sauveur merveilleux, de Jésus, le lion devenu l'agneau, l'agneau du sacrifice. Et bientôt, il reviendra, et cette fois, comme le roi des rois, comme le lion tout-puissant. Alors, à Noël, tout le monde s'empresse pour célébrer. Pourquoi ? Que célèbre-t-il au fait ? Savons-nous que c'est une fête d'anniversaire qui sort complètement des normes ? Qu'allez-vous apporter à ce sauveur humble de cœur qui vous aime tellement ? Quel cadeau allez-vous choisir pour lui ? Le seul cadeau qu'il désire, c'est que vous lui offriez votre vie. Joyeux Noël !